Je ne sais pas quand au juste ont débarqué tes magiciens à toi. Les miens ont surgi dans le sillon immédiat du départ de ma mère. Plutôt que des images, ce sont des voix. Il arrive qu'elles me consolent, me félicitent ou me complimentent, mais le plus souvent, leurs interventions vont en sens contraire. Elles me houspillent, me vrillent, me donnent des ordres, se moquent de moi. Leur présence m'est familière, je n'y pense presque plus et il me faut faire un effort pour me rappeler que l'esprit de tout un chacun n'est pas mêmement peuplé. Nancy Houston est ce soir notre invitée à l'occasion de la double actualité autour de Griselidis Real, la lettre de Nancy intitulée « Reine du réel » et la publication des poésies complètes de Griselidis Real. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Clara Luciani, La Grenade.
T'as jamais vu une femme qui se bat. Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Hérifile, vraiment, Nancy, vous êtes hérifile.
Hérifile, j'adore ce nom. Hérifile, ça veut dire amoureuse de la colère. Mais je me suis dit qu'il fallait que je regarde cette colère en face une fois dans ma vie, au lieu de toujours la mettre entre parenthèses et dire que c'était des petits accidents de parcours, et de la percevoir comme faisant intégralement partie de ma personne. Je pense que c'est le moteur de mon écriture, en fait, depuis toujours. Et lorsque je ne suis pas en écriture, les personnes autour de moi en pâtissent et ils peuvent raconter aussi, en raconter quelque chose, probablement.
Vos colères sont-elles saintes, puisqu'on dit une sainte colère ?
Oh, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup du côté de la sainteté, mais elles sont saines. On peut enlever un T. Elles sont saines le plus souvent, je pense. Et c'est important d'être en colère. Je ne suis pas quiétiste. Je peux apprécier les bienfaits de la méditation, de la sérénité, quelques minutes par jour. Et ensuite, j'ai besoin de retrouver cette énergie de l'indignation contre l'injustice, des choses qui blessent beaucoup de gens.
Votre œuvre est impressionnante dans différents registres. Il y a les romans, il y a les essais, il y a les biographies, il y a les poésies aussi. Et à chaque fois que vous prenez la parole par vos livres, Nancy Houston, vous dévoilez un pan de votre personnalité, petit à petit, comme une sorte de stratification, plus ou moins de l'intime. Vous n'aimez guère parler de vous. Et pourtant, dans ce nouveau livre consacré à Griselidis Réal, vous parlez de ce choc psychique fondamental qui, je crois, était à la source de votre écriture, qui était le départ de votre mère. Le départ, si j'ose dire, consenti par votre père. Mais où vous, en tant qu'enfant, vous étiez toute petite, on vous a pas demandé votre avis. Vous n'avez pas consenti au départ de votre mère.
C'est assez habituel, les adultes prennent ce genre de décision ensemble et les enfants n'ont qu'à l'encaisser. Rétrospectivement, bien sûr, je suis très heureuse de cet événement parce que c'est véritablement le point de départ de tout. Je pense que je ne serais pas là avec vous aujourd'hui dans une maison de radio à Paris en train de parler en français si ma mère n'était pas partie, tout simplement. Et c'était une décision féministe en plus, et c'était un petit peu féministe avant la lettre, c'était une époque où le féminisme n'était pas encore à la mode, l'époque du retour au foyer après la guerre, tout ça, et donc le mystique du féminin. Ma mère avait horreur de cette idée, de cette conception d'un avenir pour elle. Elle était très ambitieuse intellectuellement et sur le plan universitaire. Elle voulait finir ses diplômes, elle voulait manger le monde en fait. Elle était passionnée par toutes sortes de choses. Et donc, lorsque mon père a remarqué des signes d'insécurité et de difficulté chez les enfants, il a vraiment dit qu'il fallait qu'elle reste à la maison, s'en occuper, qu'on était en manque d'une mère et qu'il avait trouvé une mère qui allait jouer ce rôle, une femme qui allait jouer ce rôle, si ma mère ne voulait pas le faire. Elle est partie en se disant que c'était mieux pour les enfants d'avoir effectivement un père et une mère que d'avoir une mère seule, et que rester seule avec les trois enfants serait impliqué de dire au revoir définitivement à ses aspirations intellectuelles. Donc c'était une décision incroyablement courageuse. Ensuite, elle a mis entre nous beaucoup de distance. C'est pas qu'elle a quitté le quartier, c'est qu'elle a quitté le pays et qu'on n'a plus jamais vécu, elle et moi, à moins de quelques milliers de kilomètres de distance. Donc c'était une absence, mais avec des profession d'amour constante. Donc, elle nous écrivait, elle nous envoyait des cadeaux. Et c'était donc une sorte d'amour dans l'absence qui est devenu peut-être le modèle de tout ce que je fais dans le roman, d'imaginer des gens, de m'imaginer en train de vivre avec eux, d'être dans leur peau, de créer ce qui n'est pas là, de faire exister ce qui n'est pas là. Donc, ça a totalement déterminé ma vie.
Celle que votre père avait choisie comme future mère pour les enfants s'est avérée aussi être la femme, la seconde femme de votre père. Manifestement, elle s'est bien occupée de vous, vous avez été heureuse, mais avec cette espèce de dédoublement, voire triplement, détriplement de personnalité dont je parlais il y a peu d'instants, dans cette histoire de voix, c'est-à-dire que vous étiez vous-même dans votre propre corps, mais vous ne faisiez pas corps tout le temps avec vous-même, parce qu'il y avait ces voix qui vous parlaient. Est-ce qu'elles vous parlent encore, ces voix-là ?
Elles me parlent encore, et vous, non ?
Non.
Non, vous n'avez pas ça. D'accord. Mais je pose toujours la question, je me dis, parce que je sais que les schizophrènes pensent qu'il y a des gens qui parlent dans leur tête, quelques autres comme des saintes, justement, comme Sainte Thérèse, de façon notoire. Et puis, je pense que probablement un grand nombre de romanciers et romancières, parce que, et surtout, peut-être les gens de théâtre, parce que nous travaillons avec les voix de nos personnages. Moi, mes romans sont très, très vocaux. Ils se prêtent à l'adaptation au théâtre éventuellement et tout. Et si je ne suis pas en train d'écrire quelque chose de ce genre, les voix méchantes que vous avez évoquées reprennent du service, effectivement, encore maintenant. Je ne pense pas que je vais ni que je doive m'en débarrasser un jour. J'espère juste pouvoir leur donner la réplique. Virginia Woolf s'est suicidée au moment où elle s'est sentie définitivement à la merci de ses voix. Je crois qu'on est nombreuses à les entendre.
En tout cas, vous avez, il y a quelques années, publié un livre qui a eu un énorme succès, une grande reconnaissance, qui s'intitulait « Ligne de faille ». Ligne, c'était au pluriel, et qui donnait naissance, justement, à la multiplicité de ces voix. Est-ce que l'écriture est une forme d'exorcisme, voire de domestication, voire d'ordre de tranquillité que vous donnez à ces voix, Nancy Houston ?
Tranquillité, c'est trop dire. Mais les deux autres mots, je les aime bien, oui. Je n'ai pas envie, en fait, d'être très heureuse. Je crois que c'est tout simplement ça. Si j'étais très heureuse, et peut-être
que
je suis...
Mais ce n'est pas une volonté ni une décision d'être heureuse.
Mais je ne peux pas écrire si je suis trop bien dans ma vie.
Donc il faut être malheureuse.
Je ne sais pas, malheureuse, c'est un mot un peu romantique. Mais s'il n'y a pas un malaise, s'il n'y a pas un conflit, s'il n'y a pas une colère ou un déséquilibre, en fait, je ne sens pas l'élan qui me pousse à saisir mon stylo et à m'enfermer et à plonger dans la page. Je ne suis pas quelqu'un qui est là chaque jour, du matin au soir, à gratter du papier. Je ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça. C'est presque par impulsion et par compulsion, y compris quand je suis dans un roman. Donc le roman de Ligne de faille, avec les quatre personnages qui avaient chacun 6 ans et faisaient partie d'une même lignée, c'était pas du tout une expérience euphorisante de décrire cela. Ça me remettait, moi, à la place que j'avais à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend et devine déjà beaucoup de choses, qui a très peur, qui est très insécure, qui vit à hauteur à peu près du sexe des adultes et qui est en train d'observer ces gens instables, violents, imprévisibles et d'en subir les conséquences. Et donc, toute l'année, ou les 18 mois où j'écrivais ce roman, j'étais en grande insécurité et en grande difficulté. Mais j'étais bien entourée par des amis, mon mari qui me connaissait, qui m'encourageait, qui savait qu'il fallait passer par là. La récompense, c'est quand des lecteurs s'y reconnaissent et reconnaissent quelque chose de la gravité de l'enfance. Parce que je trouve que souvent, dans la littérature, l'enfance a été minorée par les hommes parce qu'ils ne s'occupaient pas beaucoup d'enfants traditionnellement. En bas âge, et par les femmes parce qu'elles voulaient prouver qu'elles étaient capables de parler d'autre chose que de la maternité et des rapports aux enfants. Et donc souvent, les enfants sont passés un petit peu à la trappe. Et c'était passionnant de faire cette expérience à la fois en amont et en aval.
Alors vous êtes aussi une théoricienne, Nancy Houston. Et ce que vous avez perçu de votre haute enfance peut se traduire par des essais forts et dont les conclusions perdurent encore aujourd'hui dans notre structure psychique. Après l'écriture de Ligne de faille, vous avez publié, en quelque sorte, le second ouvrage, parce que je crois qu'il faut prendre Ligne de faille et l'espèce fabulatrice comme un diptyque. Et l'espèce fabulatrice, c'est en quelque sorte la théorie de la multiplicité des identités et la nécessité pour nous, espèce humaine, de se raconter un récit. Pour faire quoi ce récit ? C'est une construction imaginaire à partir de soi ?
En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup la description de ces deux livres comme un diptyque. Et c'est arrivé que des élèves de lycée les étudient ensemble et qu'on en discute ensemble. Et j'ai toujours trouvé ça passionnant. Le récit, fait partie de notre disque dur en tant qu'espèce. Et ce n'est pas qu'on est d'abord là et ensuite on ressent le besoin d'un récit. C'est que notre être là est entièrement constitué de récits. C'est-à-dire que je peux commencer par le prénom, si je veux, par exemple. Comme j'ai donné des prénoms à mes enfants et à mes personnages, je sais que c'est un petit peu arbitraire. On peut changer d'avis à la dernière minute et donner à son enfant ou à son personnage un autre prénom. Et pourtant, dès l'instant où vous recevez un prénom, ce prénom fait partie de vous, ça devient vous. Et très très tôt, le petit bébé va réagir au son de son prénom, il va comprendre que c'est lui qui est désigné, et c'est la vérité, ce n'est pas quelque chose de faux. Le récit, on l'a intégré, pourquoi Nancy, etc., ça fait partie de toutes sortes d'histoires que je pourrais vous raconter, mais que je vous épargne, mais chacun a l'équivalent. C'est la même chose pour la date de naissance. Pourquoi on est en 2022 aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'il y a l'histoire de Jésus-Christ qui ne concerne pas forcément tout le monde, mais voilà, c'est une convention. Donc, c'est aussi un élément fictif qui devient notre réel. Je ne vais pas dire c'est faux que nous sommes en 2022. C'est juste, ça fait partie des fictions qui font partie de notre réel. De même pour l'identité de la France, l'identité de l'Église catholique, l'identité même féminine ou masculine, est largement, pas du tout entièrement, mais largement constituée d'images, de récits, d'idées que les humains ont ajoutées, plaquées là-dessus et qui font partie de notre réel. Pourquoi on fait ça, à la différence des autres animaux? Parce que nous sommes faibles, parce que nous naissons avant terme, nous sommes très dépendants, et donc nous avons besoin de nous liguer. On ne peut pas du tout survivre tout seul. On est beaucoup plus dépendants, en fait, que les autres primates supérieurs. Même ceux-ci vivent en société, mais pour nous, c'est fondamental, le lien au groupe. Et donc, en fait, le « nous » existe avant le « je ». À travers l'histoire humaine et à travers l'histoire individuelle aussi. On fait partie d'un ensemble avant de se rendre compte qu'on est un corps tout seul et un être tout seul. Voilà, donc c'est dans Ligne de faille, chacun de quatre enfants va subir un changement d'identité imposé de l'extérieur. Il va devoir changer de pays ou de langue ou de religion. Et il va comprendre que, en fait, ça l'affecte beaucoup, ça le perturbe. Il va devoir digérer ça, intégrer ça. Et ce genre de secousse nous met face au caractère finalement assez arbitraire, assez construit de l'identité de chacun. C'est toute l'importance pour moi des fictions avérées, des fictions avouées, que sont la littérature ou le théâtre ou le cinéma, qui ne font pas semblant de dire le vrai, qui avancent comme fiction et qui nous permettent de nous identifier à des gens qui ne nous ressemblent pas. Alors que les fictions identitaires, genre vive la France ou vive l'Église catholique, pour reprendre ces deux exemples, nous encourage à nous identifier seulement dans notre groupe à nous, en disant plutôt du mal des autres. Voilà, ça c'est le nous versus les autres.
Alors il y a l'identité fictive, il y a l'identité réelle, avec des guillemets au mot réel, Nancy Houston, mais il y a aussi l'identité corporelle. Le corps a une présence prépondérante à l'intérieur de votre travail d'écriture, et ce depuis très longtemps. Dans ce nouveau livre assez exceptionnel consacré à Griselidis Réal, dont nous allons parler tout à l'heure, vous parlez de vous et de votre corps. Vous dites que, comme Griselidis, vous aussi, vous avez été dans un étrange pays que vous nommez Putana Land. Quel est ce pays?
Mais le Putana Land, c'est là où les femmes font jouir des hommes qu'elles connaissent pas pour de l'argent. Et j'ai passé quelques heures dans ce pays-là. Déjà, j'avais 18-19 ans, mais aussi, comme Griselidis et beaucoup d'autres, j'ai été dans la pose nue, beaucoup, pendant des années. J'ai été dans...
Pose nue, ça
pour
veut
des
dire,
artistes.
Oui, oui, vous étiez modèle.
J'étais modèle.
Et vous dites que vous aviez reçu pas mal de plaisir en apprenant cette immobilité, et que vous avez eu la chance de travailler avec un peintre qui n'avait aucun regard érotico-maniaque sur votre corps.
Un sculpteur, c'était, oui. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour Louis Darbray et ça m'a aidé à écrire dans ma tête parce que j'étais obligée de rester immobile, sinon je peux être un peu trop busy et là, ça m'a aidé à me concentrer. J'ai aussi eu beaucoup de chance dans le stop, par exemple. J'ai été quelqu'un qui était assez casse-cou et qui aimait prendre des risques, qui aimait me mettre en danger, comme Chrysalidis aussi, étant toute jeune. Et j'ai eu de la chance de ne pas avoir eu de très, très mauvaises rencontres, mais que j'aurais pu. Déjà à l'époque, je dirais, pour ce qui concerne Putana Land, mon approche était aussi littéraire, c'est-à-dire j'avais déjà décidé que j'allais écrire et j'ai immédiatement écrit un texte sur cette expérience, d'ailleurs, qui existe encore, qui est inédit, si quelqu'un veut le publier, je crois que c'est publiable. Ça s'appelle le palais du massage. J'avais envie de tout connaître de l'espèce humaine et ça m'a appris des choses importantes. Ces quelques heures que j'ai passées en Putana Land, que je retrouve dans les pages de Chrysalidis et que je ne retrouve que très rarement dans les analyses courantes de la prostitution, notamment sur le malheur et la difficulté des hommes. Ensuite, il y a mille et mille choses dans la prostitution. C'est impossible, littéralement impossible de généraliser sur la prostitution. En tout cas, je dirais que c'est un moment dans ma vie que je ne regrette pas du tout d'avoir vécu parce que ça m'a rendu impossible de débiter des clichés à ce sujet ou d'avoir des opinions simplement politiques, automatiques.
Vous avez quitté le Canada, votre pays d'origine, après un petit détour par les États-Unis, puis vous êtes arrivée en France, où là vous avez choisi d'être écrivaine, mais aussi d'être une intellectuelle. Et celui dont vous avez suivi les cours et qui était votre directeur de thèse s'appelait Roland Barthes. Ce n'est sans doute pas un hasard si vous avez fait un mémoire sur les jurons avec Roland Barthes. Je vous propose de l'écouter. C'est une archivina du 1er janvier 1971. C'était au micro de Jean-José Marchand. Il va parler de l'écriture et de la parole.
Comment ma parole pourrait-elle aller au-delà de mon écriture? Je veux dire, comment pourrais-je concevoir que ce que je dis par la parole va plus loin que ce que j'ai écrit? La définition même de l'écriture, c'est d'être en soi absolument une sorte d'excès, une sorte de boue. On ne lâche une écriture que quand elle a été jusqu'au bout. Par conséquent, revenir sur le propos d'une écriture pour monnayer en quelque sorte ce propos, le traduire en parole, c'est en quelque sorte non seulement une incongruité théoriquement, mais même existentiellement une sorte de régression. Je me réfère bien entendu ici à une opposition désormais classique, tout au moins pour certains d'entre nous, posée par Derrida, entre la parole et l'écriture, n'est-ce pas ? La parole n'est pas l'écriture, n'a pas le même statut existentiel, sémiologique, historique aussi, et par conséquent, tout au moins dans ma vie, je distingue par la force des choses d'une façon extrêmement radicale et souvent même chirurgicale entre les activités d'écriture et les activités de parole. Et il est bien entendu que si l'écriture est pour moi une activité liée au désir et au plaisir, il n'en est pas de même de la parole. La parole, certes, je suis obligé de la manier, par respect de la vie sociale, par respect aussi des obligations de type universitaire, professionnel, mais ce n'est pas un espace de signe dans lequel je sois parfaitement à l'aise.
Vous reconnaissez-vous dans les propos de votre directeur de thèse, Roland Barthes, Nancy Houston ?
Pas du tout.
Pas du tout. Vous êtes plus libre quand vous parlez que quand vous écrivez ?
Enfin, je prends beaucoup de plaisir à la parole, à l'échange verbal. Comme je disais tout à l'heure, l'écriture est loin d'être toujours un plaisir pour moi. Mais je sais que Roland Barthes lui-même avait envie d'être romancier et qu'il regrettait de ne pas avoir la naïveté. Je crois, il n'était pas assez enfantin pour croire, en, par exemple, en les prénoms qu'il donnait justement à ses propres personnages. Il voyait trop, il avait trop analysé les romans, il commençait à analyser dès qu'il écrivait une phrase qui voulait être un roman, il était dans l'analyse, il n'arrivait pas à choisir un point de vue, il n'arrivait pas à abandonner son appareil critique. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire très peu d'études littéraires, au point de vue analyse formelle, comme ça, pour que ça ne m'handicape pas. Ça aurait vraiment été un handicap. J'aurais été le mille pattes qui se demande de quelle patte avancer en premier.
Quand vous êtes arrivée à Paris et que vous avez commencé vos activités d'écriture, vos activités militantes, parce que vous êtes devenue féministe dès la première heure, il y avait manifestement un certain désordre dans votre tête et peut-être aussi dans votre corps. Et vous dites dans ce nouveau livre qui paraît ces jours-ci que vous avez rencontré quelqu'un dont vous êtes tombée amoureuse et qui vous a apporté une sorte de sérénité. Cet homme, nous l'avons bien connu, nous l'avons beaucoup respecté, nous l'avons beaucoup lu, beaucoup annoté. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Et si vous en acceptez l'idée qu'on l'écoute, il s'appelait Tsvetan Todorov, nous allons écouter sa voix. C'est une archivina du 11 décembre 2009. Il va dire que l'on écrit avec l'être que l'on est. On écoute la voix de Tsvetan.
Je ne conçois pas que dans le domaine des humanités, cela inclut l'histoire, les sciences humaines, les études littéraires aussi, on puisse véritablement avancer dans la voie de la connaissance si on ne se sent pas engagé existentiellement dans ce projet. Bien entendu, on peut très bien apprendre, transmettre, sans pour autant s'impliquer davantage, mais pour qu'il y ait une avancée de la connaissance, il faut en passer par une mise en question de soi-même. Donc, il ne peut pas y avoir de rupture et on écrit un peu avec l'être que l'on est, un peu à la manière des écrivains pour lesquels on s'étonne moins qu'il n'y ait pas de rupture, même s'il n'y a pas non plus d'identité totale entre la vie de l'écrivain et ses œuvres, bien sûr. Mais il y a une continuité, il y a une relation. Et c'est cette même relation que j'essaye de détecter chez les autres quand je fais leur portrait.
Nous venons d'entendre la voix de Tsvetan Todorov. Il était à la fois philosophe, linguiste, théoricien de la Mittel Europa, éditeur de l'œuvre complète de Germaine Tillon, bref, un très grand intellectuel. Et on a l'impression dans ce livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Reine du réel, lettre à Griselidis Real », que vous lui rendez hommage notamment parce que il a compris l'intériorité de la multiplicité de vos personnages et finalement il vous a peut-être aidé à vous autoriser à être mère mais en même temps à rester écrivaine. Respect total.
C'est juste, Laure, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi sous mon influence que Tsvetan Todorov a pu abandonner une position trop intello, trop cerveau gauche, trop coupé de son être, de son histoire politique notamment, et laisser entrer petit à petit tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait formé étant jeune, et puis la paternité, les voyages, les découvertes, très très belle, très très beau travail aussi sur la peinture dans plusieurs livres, etc. Et vous avez raison de dire que il est présent dans le livre Reine du réel, la lettre à Griselidis Real. J'y ai pensé plusieurs fois, entre autres parce que il me disait toujours, quand il faisait le portrait de quelqu'un, comme Benjamin Constant, par exemple, je me rappelle, ou d'autres, que lorsqu'il y avait une contradiction apparente dans leur pensée, il fallait prendre du recul et essayer de voir à travers la chronologie comment s'agençaient les différents moments où ils exprimaient leurs idées. Et j'ai fait ça avec Chrysalidis systématiquement. Enfin, c'est ça pour moi la joie d'avoir pu écrire ce livre, pu passer des mois et des mois dans les archives de Chrysalidis et à lire et parcourir son œuvre dans tous les sens, c'est que j'ai pu comprendre comment quelqu'un qui, par exemple, était dans une position épouvantablement masochiste à un moment donné, qui acceptait de la violence physique de la part d'un amant en particulier, mais presque jusqu'à dire tue-moi, pouvait à un autre moment combattre du côté de façon magnifique du côté des prostituées en lutte en France et en Suisse et devenir leur porte-parole incomparable. Et voilà, si j'avais juste dit bah tantôt elle dit ça, tantôt elle dit ci, elle dit n'importe quoi, c'est complètement contradictoire. Non, c'est important de voir qu'est-ce qui a pu la conduire d'abord dans une situation aussi noire que celle que j'ai décrite avec l'amant sadique. Et puis l'amener à s'engager pleinement corps et âme, et pour toutes les dernières décennies de sa vie, dans la lutte des prostituées.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Nancy Houston, Becky Mselekou, méditation suite.
Pas de miracle. Hein. J'ai énormément lu, écouté la radio, réfléchi, observé, Donc, je peux dire que je suis une sorte de médium qui retransmet des choses enregistrées, acquises, des émotions éprouvées. Vous voyez, on n'en peut rien. Moi, c'est pas de ma faute. Hein. Donc, je n'estime pas que moi, je suis tellement douée. Par contre, je suis extrêmement sensible. Et la plupart des gens assassinent leur sensibilité. Parce que d'abord, ils ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas réfléchir. On leur sert des trucs tout cuits, tout faits. Et on leur dit, voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est ça. Contentez-vous de ce qu'on vous sert. Et moi, je ne me contente jamais. Je veux toujours voir plus loin. Je veux tout démystifier. Je ne veux pas me laisser piéger. Donc, c'est peut-être ça l'art, ne pas se laisser piéger. Je crois que l'être humain est fondamentalement angoissé devant la mort. Et tout est bon pour mettre un petit peu de distance et un peu de baume et un peu d'illusion sur ce moment de la mort qui est quand même, il faut bien le dire, un peu redouté, un peu craint et un peu inévitable. Donc, que ce soit dans l'érotisme, dans l'amour, dans la prostitution, dans la littérature, peu importe, il faut essayer d'oublier pour quelques minutes ou quelques secondes ou même quelques semaines ce moment crucial de vérité qui est la mort. Et je crois qu'on ne saura jamais aussi bien le neutraliser, l'éviter et l'adoucir qu'en vivant même une illusion et même quelque part un mensonge ou alors même quelque part une vérité. Si vraiment les gens veulent conserver une tombe ou Dieu sait quoi, une urne ou un espèce de machin, eh bien il faut que ça serve à quelque chose, hein, que ça provoque encore un petit peu de scandale et que les gens viennent baiser, forniquer, vraiment là, qui se sentent libres de transgresser tous les tabous en disant « cette bonne femme, elle mérite qu'on arrose sa tombe de foutre ».
Nous venons d'entendre la voix de Griselidis Réal, c'est une archivina du 4 mars 1992. Griselidis Réal, à qui vous rendez hommage, Nancy Houston, à la fois par un très beau livre qui s'intitule « Reine du réel, lettre à Griselidis Réal », une cohabitation avec elle pendant de nombreux mois, peut-être même des années, et puis la publication donc de ses poèmes chez Segers intitulé « Chair vive ». Griselidis Réal était un personnage. Et vous, dans cette lettre que vous lui adressez post-mortem, vous en faites une personne. Vous restituez son histoire depuis l'enfance. Et depuis l'enfance, on s'aperçoit, grâce à votre enquête, Nancy Houston, que depuis toute petite, eh bien, il fallait qu'elle écarte les jambes quand elle était petite pour se faire inspecter le sexe.
Par sa maman.
Par sa mère. Ça commençait mal pour elle.
Ça commençait mal. En fait, la vérité, c'est que elle a été conçue hors mariage et que il y avait en Suisse dans les années 20, parce qu'elle elle est née en 29, une telle désapprobation de tout ce qui n'était pas complètement réglo, mariage et maternité, que je crois que sa mère a décidé à la fois de l'en empêcher, de faire tout pour que ses filles ne vivent pas ce même sort de désapprobation sociale, mais aussi elle devait être inconsciemment en colère contre cette petite fille qui est venue trop tôt parce qu'elle en a reçu plus qu'à son tour, hein, des coups et des cris de cette mère. Ça a été décisif. Je dis qu'elle porte, elle a contre sa mère la même colère que moi contre la mienne. C'est sûrement pas exactement la même, mais c'est vrai qu'elle va concevoir une rage contre tout ce qui est, comme elle vient de le dire, tabou, tous les interdits, et elle pense qu'il suffit de gaiement aller transgresser, piétiner toutes ces choses-là pour être dans le bonheur et la liberté. C'est bien sûr un peu plus compliqué que cela, mais nous avons une chance extraordinaire avec Griselidis Réal d'apprendre quelque chose sur le métier des travailleurs et travailleuses du sexe qui n'a jamais été dit aussi pleinement, aussi magnifiquement parce que justement, elle vient d'un milieu de parole, d'écriture, de lecture. Comme elle le dit, elle lit énormément. Ses deux parents étaient étudiants en lettres quand ils l'ont fabriqué.
Elle vient d'un milieu bourgeois.
Un milieu bourgeois, calviniste. Et donc, c'est quelqu'un qui lit constamment, qui a une énorme bibliothèque, qui a la langue plus que bien pendue et qui donc peut nous apporter une parole dans ce monde qui si souvent se passe dans des jugements hâtifs, le mépris rapide, on n'a pas envie de regarder ça en face. Et Griselidis écrit des poèmes extraordinaires. Elle écrit de la prose poétique quand elle est dans sa période militante. Très, très belle aussi. Elle a écrit sur la mort. Elle parlait de la mort là, mais dans les dernières années de sa vie, elle a été atteinte d'une maladie grave et elle a tenu à aller même là-dedans, dans les traitements, dans la chimiothérapie, dans l'hôpital, dans la vie de quelqu'un qui est en train de partir et apporter des mots là aussi. Et vraiment, chapeau, c'est absolument extraordinaire. C'est pour moi une des grandes, grandes poètes, une des grandes voix poétiques du XXe siècle.
On ne naît pas prostituée, on le devient. On peut paraphraser la phrase de Simone de Beauvoir pour expliquer à quel point l'itinéraire de Griselidis Réal est un itinéraire où finalement la prostitution est peut-être devenue un choix, mais d'après votre livre, ce n'est pas un choix de départ. C'est parce qu'elle a été acculée, pour des raisons de misère, à pratiquer la prostitution pour pouvoir nourrir ses propres enfants, qu'elle a commencé à devenir prostituée. Et puis ensuite, il y a eu quelque chose comme de l'ordre de l'assomption de ce qui est peut-être devenu non pas un métier, parce qu'on sent à travers votre écriture, Nancy Houston, qu'il y avait toujours une prise de risque dans la prostitution pour Griselidis, où elle était située. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous écrivez, vous n'êtes pas forcément très bien, que c'est pas forcément un plaisir. Vous avez dit que il faut en quelque sorte avoir cette zone d'insécurité pour pouvoir se dépasser soi-même. Est-ce que Griselidis faisait aussi la même chose ?
Effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut distinguer entre les différentes périodes de prostitution dans sa vie. Et pour simplifier, on va dire qu'il y en a surtout deux. Quand elle est jeune maman, effectivement, et qu'elle se prostitue véritablement parce qu'elle ne voit pas comment s'en sortir sans cela. La prostitution, comme vous savez, est légale en Suisse depuis 1942. Ceci dit, elle ne prend pas sa carte et donc elle est quand même dans la clandestinité et le danger. Et elle est assez fière de savoir gérer la violence de certains clients. Et puis, il y a la deuxième période de militantisme où elle redevient prostituée et cette fois, elle prend sa carte et elle reste dans le métier pendant encore 25 ans, jusqu'à 70 ans, parce qu'elle se dit que ce n'est pas juste de parler à la place des prostituées si elle n'est pas dans le métier. Et à ce moment-là, elle fait véritablement l'éloge de la prostitution parce qu'elle a à cœur de faire respecter les prostituées. Elle en a marre du mépris dont elles font l'objet. Et donc, elle a une tendance forte à idéaliser cette activité en disant « La prostitution est un humanisme, un art et une science ». Et je pense que dans les conditions idéales qu'elle appelle de ses voeux pour exercer ce métier, ça peut effectivement remplir ces trois fonctions. Mais la grande majorité des travailleuses du sexe dans le monde actuel ne vivent pas du tout leur métier de cette façon-là. Il faut préciser qu'entre les deux périodes de prostitution, il y a 5 ans, où elle est écrivaine, puisqu'elle reçoit une bourse de Pro Helvetia, l'agence culturelle de l'État suisse, pour écrire un roman. Et elle va faire un très beau livre qui s'appelle « Le noir est une couleur », où elle racontera l'aventure par laquelle elle a quitté la vie de petite Suisse frigide, mariée, malheureuse, qui était la sienne. Et elle a commis une vraie folie en partant en Allemagne avec un noir américain schizophrène, enfin vraiment diagnostiqué schizophrène. Elle l'enlève dans une clinique psychiatrique à Genève. Ils partent en Allemagne et c'est lui qui va la mettre sur le trottoir parce qu'ils ont les enfants avec eux et aucun moyen de subsistance. Donc là, c'est vraiment sordide. Et le roman, là aussi, j'ai envie de dire, on n'a jamais l'occasion de lire le sordide avec un aussi beau langage qui tient à le dire pleinement et sans pincette. Donc c'est une lecture difficile et qui vaut vraiment la peine.
Je vais lire un court extrait qui d'ailleurs est en exergue de votre nouveau livre, Nancy Houston, des citations de Griselidis. Elle dit « Pour moi, la fiction et le réel sont indissociables. Ils ne forment qu'un, un seul univers, un jardin des délices, un jardin des supplices. Ils sont entremêlés. Pour moi, le réel est, EST en gros caractère, le réel est la fiction et la fiction est, en gros caractère, réel. Sans doute suis-je folle. Je suis identifiée à tout, je suis perpétuellement extensible, habitée, imagée. Je ne m'appartiens pas. » Est-ce que c'est pas une définition, justement, de son écriture, de l'espèce fabulatrice et de son écriture poétique, qui n'est pas du tout une restitution de sa propre autobiographie?
Eh bien, c'est assez proche de l'autobiographie, mais elle est consciente du fait que tout le monde vit aussi dans ses fictions, dans ses images, dans ses projections, et qu'il est impossible de séparer, de trouver une séparation nette entre ce qui est le réel et ce qui est la fiction. Je trouve qu'elle le dit magnifiquement. Cette phrase en exergue, ça pourrait être une phrase que... Enfin, je trouve que c'est une phrase que j'aurais pu écrire.
Alors, beaucoup de points communs entre vous. C'est une lettre, donc elle est personnelle. Cela permet de faire un autoportrait de vous. Beaucoup de points communs. On a parlé de la mère au début de cette émission, de votre mère. La mère de Griselidis était aussi une sacrée mère qui a humilié sa fille et aussi ses sœurs. Et à la fin de ce nouvel ouvrage qui paraît ces jours-ci, vous dites aussi que finalement, Griselidis, à la fin de sa vie, quand elle savait qu'elle allait mourir, s'est rapprochée de cette mère. Elle lui a envoyé des correspondances en lui disant qu'elle était belle, alors que cette mère l'avait vraiment profondément traumatisée. Et vous, vous parlez de votre mère, comme si effectivement la redécouverte du lien fille-mère s'était faite. Peut-être par Griselidis, je ne sais pas.
En tout cas, je tiens à dire que Griselidis m'a fait un bien énorme. Que son énergie, sa joie de vivre, sa détermination, aussi sa passion pour son souci des autres, pour ceux qui souffrent, je trouve qu'elle est d'une générosité extraordinaire et c'est une leçon des choses. Ensuite, on ne va pas dire qu'on la donne en modèle à toutes les jeunes filles qui nous entourent. Mais pour ce qui concerne le personnage de la mère, il ne faut pas oublier que nous avons un point de vue à un moment donné où elle est en colère contre la Suissesse parfaite qu'elle a essayé et échoué d'être. Cette mère, selon d'autres témoignages de ses proches, c'était quelqu'un de très, très artistique elle-même. Elle avait une galerie d'art, elle exposait des artistes à Lausanne. Elle aimait beaucoup le voyage, elle aimait aussi la vie. Je pense qu'elle avait un souci pathologique de protéger ses filles quand elle s'est retrouvée seule après la mort de son mari à l'âge de 33 ans. Et elle a dû paniquer un petit peu et aller beaucoup trop loin dans le sens de la protection. Et c'est certain que Griselidis a été marquée à vie par ces scènes d'inspection vaginale. Mais ensuite, nous avons tous une tendance à fabriquer nos parents en personnages plus grands que nature. Nous en faisons Zeus et Héra quand ils se disputent, ça devient les dieux dans le ciel au-dessus de l'Olympe, n'est-ce pas? Et en fait, c'est des pauvres gens comme nous-mêmes quand on arrive à l'âge adulte et on a des disputes avec notre chérie. Donc, c'est important de garder un peu les proportions. C'est important aussi, comme vous l'avez fait, de souligner ce rapprochement, le tout dernier poème qu'elle écrira dans sa clinique où elle est en train de s'éteindre sera un poème d'une déclaration d'amour à Gisèle Bourgeois, sa mère.
Merci infiniment Nancy Houston. Je rappelle la double actualité autour de Griselidis Réal, cette publication donc aux éditions Segers de sa poésie sous le titre « Chère vive ». Et puis ce livre, cette lettre vraiment magnifique que vous avez écrite post-mortem à Griselidis Réal qui vient de paraître aux éditions Nil. Et puis elle repose en paix, paix à son âme, puisque elle repose au cimetière des Rois entre Borgès et Calvin. Merci beaucoup Nancy Houston.
Merci.
C'est avec Rosalia and the Weeknd que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui est à la régie technique ce soir. Merci encore Nancy Houston. Je rappelle que votre dernier livre est intitulé « Reine du réel, lettre à Griselidis Réal » et qu'il vient d'être publié aux éditions Nil. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément, Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et bien sûr Lilian Allôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Après le prochain journal, vous avez rendez-vous avec qui ? Mais bien sûr, avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip.